Laudetur Jesus Christus.
Première parole du pape élu depuis la Loggia hier soir lors de la messe d'action de grâce célébrée ce matin en présence de ceux qui l'ont élu. Léon XIV a repris les mots de Saint Ignace d'Antioche pour regarder l'avenir. Disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit glorifié. En le choisissant, les cardinaux confirment le choix d'une église ouverte, multiculturelle et missionnaire. Le cardinal Robert Francis Prévost n'a pas toujours été en effet préfet du dicastère pour les évêques à Rome. Nous nous intéresserons au parcours du prêtre devenu pape. Nous irons aussi sur ses traces au Pérou où son élection a été accueillie avec une joie immense et des cloches à la volée. Il est l'un des nôtres, nous confiera la présidente de la faculté de théologie à Lima. Et puis enfin aux États-Unis, dont il est originaire, c'est le premier pape nord-américain, le pape élu Léon XIV qu'évoque là-bas le choix de son nom, c'est ce que nous verrons.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Une première journée de pontificat s'achève pour le nouveau pasteur de l'Église. Elle fut marquée, et c'est une tradition, par une messe d'action de grâce célébrée au lendemain de son élection. Le pape Léon XIV a retrouvé la chapelle Sixtine et les cardinaux électeurs, rejoints par d'autres membres du collège cardinalis pour cette première célébration et première homélie. Une homélie dont les premiers mots furent précisément adressés en anglais aux cardinaux. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
You have called me to carry...
Vous m'avez appelé à porter une croix et être béni par cette mission, et je veux que vous marchiez avec moi parce que nous sommes l'Église, nous sommes une communauté d'amis de Jésus qui doivent annoncer la bonne nouvelle du Christ. Après ces premiers mots, Léon XIV est revenu sur cet acte de foi de Pierre, Pierre qui, dans sa réponse au Christ, saisit ces deux aspects, le don de Dieu et le chemin à parcourir pour se laisser transformer, des dimensions indissociables du salut confiées à l'Église afin qu'elle les annonce pour le bien du genre humain. Dieu, en m'appelant à votre vote à succéder au premier des apôtres, me confie ce trésor afin qu'avec son aide, j'en sois le fidèle administrateur au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits du monde, a encore souligné le nouveau pape. Comment reconnaître Jésus aujourd'hui ? Léon XIV a rappelé combien le monde contemporain, y compris parfois certains catholiques, en faisait un leader charismatique ou encore un surhomme. Tel est le monde qui nous est confié, dans lequel, comme nous l'a enseigné à maintes reprises le pape François, nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur, a-t-il dit. Aussi, a rappelé le nouveau successeur de Pierre, il est essentiel de le faire avant tout dans notre relation personnelle avec lui, dans l'engagement d'un chemin quotidien de conversion. Léon XIV, qui a conclu son homélie en citant Saint Ignace d'Antioche, des mots qui résonnent comme un programme pour le nouveau pasteur de l'Église universelle, disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout, pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer.
Olivier Bonnel, une homélie bien sûr à retrouver sur vaticannews.va. On ne sait rien de l'après-midi du pape élu. Dormira-t-il comme hier dans son habitation du Saint-Office ce soir dans l'enceinte des murs du Vatican ? Les rendez-vous à venir sont nombreux. Demain, il échangera en privé avec les cardinaux, rencontrera la presse lundi, les diplomates accrédités près le Saint-Siège vendredi prochain. Et pour laisser le temps aux responsables du monde entier, religieux ou politique, de se rendre jusque Rome, la messe d'intronisation de son pontificat ne sera célébrée que le 18 mai prochain, dimanche. Le pape prendra ensuite possession de la basilique Saint-Paul hors les murs, la première, un hommage peut-être aux 1700 ans du concile de Nicée, et avant même d'aller prier sur la tombe du pape François, son prédécesseur. Ce sera le 25 mai prochain, Sainte-Marie Majeure. Mais avant cela, il y aura une nouvelle rencontre avec les fidèles le 21 mai pour sa première audience générale. Une nouvelle rencontre, en effet, car le prochain engagement public du pape élu aura lieu dimanche. Ce dimanche, il récitera la prière du Regina Caeli depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, retrouvant ainsi les fidèles et curieux qui étaient plus de 100 000 hier soir à découvrir son visage après l'abémus papam et ses premières prises de parole. Que la paix soit avec vous, une paix désarmée, désarmante, humble et persévérante. Le 266e successeur de Pierre esquissait des lignes programmatiques, une église unie et missionnaire. Le premier pape américain de l'histoire a aussi remercié en espagnol les fidèles péruviens, un pays où le pape Léon XIV arriva à 30 ans pour y passer plus de 25 ans de sa vie. Le Pérou qui a vécu dans la joie son élection, les cloches sonnant à la volée à travers le pays. Véronique Le Carros dirige à Lima la faculté de théologie de l'Université catholique.
Il est un des nôtres, il nous comprend. Vous savez, la manière de vivre la foi, même s'il n'est pas originaire d'Amérique latine, il y a vécu. Il était à Chulucana, qui est un vicariat très pauvre, rural, donc il connaît de l'intérieur les divisions de la société, la foi des personnes-là. Il saura créer des ponts et non pas des murs. Tous, il a repris tous ces termes-là. C'est un signe. Après, ce sera un autre style. Le pape François, c'était un homme d'impromptu, mais je pense que Léon XIV est un homme peut-être plus réfléchi.
Et c'est ce que vous retenez de ces années passées dans un autre diocèse, celui de Chiclayo.
Monseigneur Prévost est arrivé à Chiclayo, un évêché où il y avait eu des évêques de l'Opus Dei depuis 50 ans, avec un clergé formé à l'Université de Navarre, l'Opus Dei. Et il est arrivé à gérer cet évêché sans qu'il y ait des heurts majeures. Il a su parler, il a su être conciliant, mais en même temps en gardant son orientation, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait des laïcs qui soient inclus, en faisant en sorte qu'il y ait des conseils de paroisse, en promouvant une attitude synodale.
Véronique Le Carros, une messe en l'honneur du pape Léon XIV aura lieu à Chiclayo demain soir. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, religieux de l'ordre mendiant de Saint-Augustin, a donc été longtemps missionnaire avant d'être appelé à Rome par François en 2023 comme préfet du dicastère pour les évêques. Je vous propose de revenir sur le parcours du nouveau pape avec vous, Jean-Benoît Harel.
Oui Marie, une foi façonnée par trois continents. D'abord apprise de ses parents aux États-Unis où il commence sa vie, à Chicago plus précisément. À 22 ans, après des études en mathématiques, il décide de donner sa vie au Christ et de devenir religieux. Le jeune prévôst entre alors chez les Augustiniens, étudie au séminaire, passe même quelques années à Rome pour un doctorat en droit canonique. Mais poussé par un élan missionnaire, il s'envole pour le Pérou auprès d'une population pauvre et peu christianisée. Il y reste une quinzaine d'années avant de revenir à Rome, comme prieur général de son ordre de 2001 à 2013, ayant la charge de 3000 religieux dans une cinquantaine de pays. Revenu à Chicago, Robert Francis Prévost repart presque aussitôt pour prendre la tête du diocèse de Chiclayo, au Pérou, comme évêque nommé par le pape François, alors tout juste élu. Il y restera une dizaine d'années, s'investissant en véritable pasteur du peuple de Dieu dans un diocèse de 50 paroisses au nord du pays. En 2018, François le rencontre au cours de son voyage apostolique au Pérou et le nomme rapidement au dicastère pour les évêques, comme membre, avant de lui en confier la direction en 2023. Hier, une nouvelle mission lui a donc été confiée par les cardinaux, celle de guider l'Église universelle.
Merci Jean-Benoît Harel. En choisissant en effet les cardinaux confirment le choix d'une Église ouverte, multiculturelle, en sortie. Les chantiers sont nombreux et considérables, de la curie à la synodalité, de la place des laïcs à la crise des abus. Il lui faudra aussi se montrer prophétique et parvenir à se faire entendre dans un monde fracturé, marqué par la guerre, par une profonde crise du multilatéralisme. Mais comment d'ailleurs est vécue et perçue l'élection du premier pape né aux États-Unis dans son pays natif, alors que l'Amérique de Donald Trump et de J.D. Vance se fait couler beaucoup d'encre? Massimo Fagioli est professeur de l'histoire de l'Église à l'université de Villanova à Philadelphie aux États-Unis, la même où le nouveau pape fut diplômé en 1977. Il revient sur la portée symbolique et politique de cette élection dans une Amérique polarisée et où le catholicisme est tiraillé entre fibre sociale et tentation identitaire.
C'est un choix qui représente des inconnus parce que c'est un pape des États-Unis. Dans un certain sens, c'est la réponse la plus contradictoire à l'Amérique d'aujourd'hui. Le catholicisme américain doit retrouver son unité visible au niveau liturgique, théologique et même politique, car il est sujet à une tentation nationaliste. Et le choix du nom Léon est significatif, non seulement pour l'encyclique Rerum Novarum, mais surtout pour la lettre aux catholiques américains de 1899, Testem Benevolentiae, qui mettait en garde contre certaines tentations américanistes. C'était un avertissement pour les catholiques des États-Unis contre l'idée qu'ils pouvaient se passer de certaines obligations d'être en communion avec le Saint-Siège et qu'ils devaient maintenir un équilibre entre l'identité américaine et l'identité catholique. Mais le Léon XIV d'aujourd'hui n'utilisera sûrement pas le même langage.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel et puis enfin les réactions continuent à affluer après cette élection. Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, a estimé, espéré aujourd'hui que les relations entre le patriarcat de Moscou et le Vatican se développent progressivement dans un moment historique particulier lié à la fois à un certain nombre de défis civilisationnels mais aussi à certains signes d'espoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient lundi matin, mais n'hésitez pas à écouter notre Vox, notre émission, demain samedi.